Héraclès ou Hercule dans le langage commun. Ce nom est parvenu jusqu'à nous. Ce nom, qui signifie la gloire des rats, est incarné par ce demi-dieu, par ce fils illégitime que Zeus a eu avec une de ses nombreuses conquêtes. Ce fils qui a été poursuivi pendant des années par la colère de son auguste et jalouse belle-mère. Ce fils qui s'est hissé au firmament des plus grands, des plus puissants de tous les héros pour avoir accompli les travaux les plus incroyables de tous. Ces 12 travaux, accouchés dans la douleur, ayant pour but de le purifier, de purifier un acte innommable commis par la faute même des rats. Nous allons découvrir ensemble cette vie incroyable du fils le plus connu du roi du ciel. Zeus est amoureux. Zeus est toujours amoureux. Dès que ses yeux se portent sur une nouvelle beauté, son corps et son cœur n'ont de cesse de la désirer au plus vite. Et pourtant, Zeus n'est pas un cœur à prendre. Il est marié, et bien marié, à Héra, qui est la déesse protectrice des mariages, et qui tient plus que tout à ce que cette institution soit respectée. Est-ce que son mari est du même avis? Pas si sûr. Zeus est amoureux. Il est amoureux d'une mortelle. Il est amoureux de la petite fille du grand Persée. Il est amoureux d'Alcmène. Alcmène est magnifique. Elle est une des femmes les plus belles de Grèce. Mais surtout, elle aussi est déjà promise. Elle est promise à Amphitryon. Et elle a promis à son époux qu'elle s'offrirait à lui lorsque celui-ci reviendrait victorieux de la guerre qui l'opposait au meurtrier de son frère. Elle s'offrirait pleinement et totalement à lui. Zeus, bien évidemment, est au courant de tout cela. Il est omniscient et, comme vous l'imaginez bien, rien ne lui échappe. Et l'avantage d'être le roi du ciel, c'est que tous ses commandements sont exécutés, fussent-ils les plus fantasques. Et justement, Zeus a un plan. Il va imposer à Hélios, la lumière, le soleil, d'éteindre ses feux, de ralentir sa course, de ne plus se lever pendant la durée que Zeus jugera bonne. Et à Hypnos, le dieu du sommeil, d'endormir tout ce qui peut être vivant dans l'univers pendant une nuit qui durera 3 jours. Ça y est, la nuit est tombée. Pas une lumière n'est encore visible. Il n'y a plus âme qui soit réveillée, sauf Alcmène, qui attend avec impatience le retour de son époux. Zeus ne peut se montrer sous sa véritable forme, sous peine de causer de profonds et irréversibles dommages à Alcmène. Il va faire comme il a fait avec toutes ses maîtresses précédentes. Il va prendre l'apparence d'un être humain. Ici, il ne prend pas de gants et décide de prendre l'apparence tout simplement d'amphitryon afin de tromper Alcmène. Celle-ci, voyant revenir son époux, qui de surcroît lui raconte ses exploits guerriers et sa victoire, ne pourra en aucun cas se refuser à la promesse qu'elle lui a faite. Et c'est le cas. Lorsque Alcmène croit voir Amphitryon se présenter devant elle et lui faire le récit de ses exploits victorieux, elle ne peut se dérober à la promesse qu'elle lui a faite. Et la voilà donc, toute offerte, allongée sur sa couche, à cet époux qui se montre d'une force et d'une vigueur exceptionnelles. Leurs ébats vont donc durer l'équivalent de 3 journées et laisser Alcmène épuisée. Lorsque Hélios regagne son palais, lorsque le soleil reprend sa place et que l'aube commence à se lever, Zeus, sous la forme d'Amphitryon, quitte Alcmène et regagne son palais. Mais à peine eut-il franchi les grilles de l'Olympe que Amphitryon, le vrai, se présente devant Alcmène. Amphitryon est là, auréolé de ses victoires, pressé d'aller rejoindre Alcmène dans sa couche et de s'unir à elle comme celle-ci lui avait promis s'il revenait victorieux. Il est donc pressé de lui raconter ses victoires, de lui raconter comment il a vengé le nom de ses frères. Et au lieu de trouver une Alcmène réveillée, attentive, caressante, prête à lui prodiguer 1000 tendresses, voilà qu'il la trouve épuisée, alanguie, presque somnolente, dans sa couche. Alcmène s'étonne de le trouver encore tout rempli de vigueur et lui demande s'il va encore lui faire le récit de ses exploits guerriers. Amphitryon est ébahi. Il ne comprend pas ce qui est en train de se jouer devant ses yeux. Il est soudain saisi d'un doute. Alcmène n'aurait-elle pas tenu sa promesse ? Se refuserait-elle de lui offrir son dû ? Ou plutôt, l'aurait-elle offert à quelqu'un d'autre ? Amphitryon ne peut rester ainsi. Il prend donc au plus vite la direction de Delphes et va t'y interroger l'oracle. Et l'oracle, comme à chaque fois, ne lui répond pas directement. Il lui répond qu'il a été trompé et que c'est à Zeus qu'il doit cette tromperie. Amphitryon est sonné. Cependant, il ne répudie pas Alcmène. Et 9 mois plus tard, la jeune femme met au monde un fils d'une vigueur, d'une force si exceptionnelle que le jeune couple ne tarde pas à se rendre compte que de l'union scandaleuse, presque adultérine, qui a eu lieu quelques mois plus tôt, vient de naître un fils. Et quel fils ! Un demi-dieu. Mais pour l'instant, ils ne peuvent confirmer leurs soupçons. Zeus est impatient de son côté. Il tourne en rond au sommet de l'Olympe. Il guette le moindre signe de la naissance de ce nouvel enfant, de ce fils qu'il attend avec impatience, sans pour autant avoir oublié la prédiction funeste qui attesterait de la naissance d'un fils qui le détrônerait. Mais ivre d'amour et de bonheur, cette prophétie ne l'atteint pas comme à l'ordinaire. Et afin d'amadouer son épouse, dont il sait la rancune particulièrement tenace, il décide que l'enfant se nommera Héraclès, ou dans le langage commun, Hercule, ce qui veut dire « à la gloire des rats ». Il escompte que ce présent calmera les aigreurs de la reine du ciel, mais c'est bien mal la connaître. Héra ne laisse rien paraître. Elle ne lui demande qu'une seule chose, que le premier enfant qui naîtra de cette union sera le roi d'Argos. Zeus promet bien tout ce que l'on voudra. Il est tout à sa joie et à son bonheur. Il ne se rend pas compte qu'Héra est en train de refermer autour d'Hercule un piège qui le conduira vers ses 12 travaux. Héra ne décolère pas, mais sa colère est froide. Elle est calculée. Elle réfléchit déjà à comment acter sa vengeance, à comment faire payer à son divin époux sa nouvelle infidélité et de surcroît cette nouvelle naissance illégitime qui s'annonce encore une. Ce n'était pas comme si c'était la première. Il y en a tant eu avant Alcmène. Et à chaque fois, Héra a tempêté, vitupéré. Elle a tout fait pour que les futures mères n'arrivent à trouver le repos et que les progénitures partent de la même également. Mais cette fois-ci, c'est différent. Zeus a essayé de l'amadouer. Comment, me direz-vous ? À ce futur enfant à naître dont il est sûr d'ores et déjà qu'il sera un fils, il lui a trouvé un prénom, et pas n'importe lequel, Héraclès, ce qui veut dire dans le langage commun « à la gloire des rats » ou « Hercule ». Il escompte que ce présent amadouera Héra, dont il connaît le caractère et dont il sait qu'elle n'est pas là pour se réjouir et qu'elle ne participera pas aux festivités de la naissance de ce nouvel enfant. Mais il se trouve qu'il est surpris par la réaction d'Héra. Elle ne se met pas en colère. Elle ne lui assène pas une de ces crises dont elle a le secret et qui font trembler les murs même de l'Olympe. Pas du tout. Elle reste calme et elle ne lui demande une seule chose, car c'est là son plan, c'est là sa vengeance calculée qu'elle médite et qu'elle réfléchit depuis des semaines. Elle ne lui demande donc qu'une seule chose, que le premier enfant mâle qui naîtra de cette union soit préparé à devenir le futur roi d'Argos. Zeus étant tout à son bonheur, il lui promet tout ce qu'on voudra. Héra sourit. Elle a gagné. Elle sait que Alcmène n'est pas la seule à être enceinte. Il se trouve que la cousine d'Alcmène, elle aussi, attend un heureux événement prévu quelques semaines après Alcmène. L'occasion est trop belle pour Héra pour qu'elle ne la saisisse pas, vous vous en doutez. Elle va hâter la naissance de cet enfant. Ce petit garçon, puisqu'il s'agit là aussi d'un fils, va naître prématurément. Et là, le piège se referme, car Zeus n'a pas d'autre choix de reconnaître que cet enfant-là, ce premier-né de la maison d'Argos, deviendra, quand il sera plus grand, le premier prétendant au trône et donc le roi d'Argos. Exit donc son fils, exit Héraclès. Zeus est en colère, Zeus tempête, mais il ne peut strictement rien faire. Il est pieds et poings liés, il a promis. Vous me direz, un dieu et de surcroît le roi des dieux pourrait revenir sur sa promesse. Eh bien non, il ne peut toucher à la destinée d'Héraclès parce qu'il y a un commandement qui n'est pas écrit, quelque chose qui dépasse les dieux et que les dieux eux-mêmes ne peuvent outrepasser, c'est le destin, cette force immuable qui définit le cours de la vie des personnes et qui la dicte. Le sens de la vie, qui décide de la naissance, mais aussi du moment du trépas, qui va donc décider de la durée de la vie de la personne. Et cela, les dieux ne peuvent strictement rien y changer. Le destin d'Héraclès n'est plus entre les mains de son divin père. Et celui-ci serre les dents. Et pourtant, il n'a pas décidé d'abandonner complètement son fils. Vous allez voir que Zeus ne sera pas le seul à se préoccuper de la destinée d'Héraclès. Apollon, Athéna et d'autres divinités vont lui apporter plus tard leur concours. Hercule est né, ça y est. Il est installé dans son berceau et se repose doucement. Pendant ce temps, Zeus, qui certes ne peut totalement savourer cette naissance, puisque Hercule ne peut prétendre au trône d'Argos, celui-ci ayant été dévolu à son cousin, le petit Eurysthée, qu'Héra, par vengeance, a fait naître quelques minutes plus tôt. Cependant, il se réjouit quand même de cette naissance et de ce nouvel enfant et de surcroît ce fils, d'ores et déjà promis, il le sait et il s'en assurera, à un destin extraordinaire. Et si Héra escompte lui mettre des bâtons dans les roues, il espère et souhaite qu'on ne la laissera pas faire. Héra, justement, observe le petit bambin dans son berceau. Et si elle se réjouit de la naissance d'Eurysthée, qui suit tout à fait le plan qu'elle a initié, elle ne peut se permettre de garder Héraclès en vie. Elle le sait, fils de Zeus, avec tout ce que cela incombe. Et il est hors de question qu'il fasse de l'ombre au futur roi d'Argos. Elle envoie donc comme un cadeau maléfique auprès du nourrisson, dans le but de hâter son trépas, deux vipères. À peine l'enfant les aperçoit-il, à peine le nourrisson, le tout petit bébé, voit-il ces deux serpents siffler férocement et méchamment vers lui, prêts à mordre tout crochet dehors, que Hercule saute en dehors de son berceau, attrape les deux vipères, les serre dans ses petits poings jusqu'à les étrangler complètement. Héra a perdu une bataille ce jour-là. Elle le sait, Héraclès a fait montre de sa force et elle l'a sans doute un peu trop négligé. Cependant, elle est patiente et elle saura plus tard le berner, mais surtout lui faire payer cette force outrageante et l'humiliation infligée par son divin mari. Hercule grandit. Il grandit auprès de ses parents, Alcmène et Amphitryon, à qui Zeus, enfin, a consenti à révéler les conditions de sa naissance. Hercule grandit et développe un corps véritablement d'athlète. Il est plus grand que les hommes de son temps, sa force dépasse même celle du grand Persée. Bref, il n'y a personne qui semble pouvoir rivaliser avec lui. Et cela contrarie le jeune homme qui vient tout juste d'avoir 18 ans. Et comme tous les héros qui l'ont précédé à cet âge, il souhaite se mettre à l'aventure et donc parcourir les routes de Grèce en quête d'exploits à accomplir, d'exploits qui pourraient le rendre célèbre et pourquoi pas même lui offrir quelques avantages comme une couronne ou un royaume, qui sait. Et il se trouve que la ville de Thèbes va lui en donner l'occasion. Thèbes est une cité soumise à mille périls, mille créatures et autres brigands la saccagent et terrorisent les habitants. Le roi de la ville n'a de cesse de supplier qu'on vienne le débarrasser de tout cela. Hercule accepte, parce qu'il sait que le roi a promis ce qu'il a de plus cher, sa fille, Mégare. Et Hercule fait montre de sa force et terrasse tous ses ennemis. Et le voilà marié à Mégare et promis au trône de Thèbes. Que pouvait-il demander de plus, si ce n'est avoir une descendance? Chose faite, quelques mois plus tard, le voilà déjà à la tête d'une grande famille. Les années ont passé, me direz-vous. Et Héra dans tout cela, est-ce que sa rancœur a diminué? L'aurait-elle oubliée? Oh, c'est bien mal la connaître. Héra n'oublie personne et elle va se rappeler au souvenir d'Héraclès, mais surtout au souvenir de Zeus, de la plus monstrueuse des façons. Héra est patiente, et de la patience, elle en a eu pendant 18 années. Durant ces 18 ans, elle a veillé sur Hercule, elle l'a observé, elle l'a regardé grandir sans intervenir, attendant et guettant le moment opportun où elle pourrait abattre ses dernières cartes, qui, elle en était sûre, le condamnerait définitivement. Et quelles sont-elles, ces cartes? Elle sait, Hercule, très attaché à sa grande famille. Elle sait aussi qu'il passe énormément de temps avec ses enfants. Ce sera donc par ses victimes innocentes que s'exprimera sa vengeance finale. Et comment cela va-t-il se faire, me direz-vous? Héraclès est en train de jouer dans un champ avec ses enfants. Il joue régulièrement avec eux. Ils se battent. Bref, ils s'entraînent au combat. Or, à un moment où Héraclès est en train de jouer à la lutte avec un de ses enfants, il est soudain frappé, percuté par un élan invisible. Au départ, il ne se passe rien. Il lui semble que c'est comme un coup de vent qui l'aurait heurté. Mais dans la seconde qui suit, la vision de tout ce qui est autour de lui bascule. Elle change. Les paysages qui étaient si calmes et si tranquilles se transforment en des territoires d'apocalypse. Et ses enfants, avec qui il était en train encore il y a quelques minutes à peine de jouer, ne ressemblent plus à des enfants, mais à des bêtes hideuses, à des monstres tout droit sortis du plus profond du Tartare. Héraclès est effrayé. Et là, il ne fait appel qu'à son courage, qu'à un instinct de survie et qu'à sa force. Il se défend contre ce qui semble être des attaques. Il ne comprend pas que ce sont tout simplement ses enfants qui continuent de jouer à la lutte avec lui. Non,
Lui, tout ce qu'il voit, c'est une bête monstrueuse, digne du Minotaure face à Thésée, qui est en train de le charger comme prêt à le tailler en pièces. Et avant qu'Hercule ne succombe, il décide à son tour d'attaquer les bêtes qui semblent vouloir s'y mettre à plusieurs. Il les frappe, les fracasse, les retourne. Bref, c'est un véritable carnage. Un carnage qu'Héra observe au-dessus, au plus haut, dans son palais de l'Olympe. Elle observe sa vengeance implacable avoir l'effet qu'elle attendait. Elle se sent satisfaite. Nul doute que lorsque Hercule reprendra ses esprits, il sombrera dans une telle détresse qu'il mettra de lui-même fin à ses jours. Et en effet, la vision s'estompe par le même coup de vent qui semble avoir frappé Hercule. La vision qu'il avait apocalyptique jusqu'alors change et les paysages redeviennent tels qu'il les avait toujours connus. Mais il n'y a plus de créatures hideuses telles que celles qu'ils viennent d'affronter il y a quelques secondes encore, non. Le champ est jonché de cadavres, jonché de cheveux, de pièces d'étoffe. Il ne comprend pas, ou plutôt si, mais il se refuse d'accepter l'inacceptable. Il s'écroule de toute sa hauteur au sol, face aux tuniques limbées de sang de ses enfants, qui ne ressemblent plus à des enfants. Héraclès a décimé sa descendance. Il ne lui reste plus rien. Il ne sait que faire. Il erre ça et là. Il est empli de désespoir, tel que le souhaitait Héra. Mais pourtant, il ne décide pas de mettre fin à ses jours. Il va aller interroger l'oracle pour savoir ce qu'il escompte, ce qu'il doit faire, ce que les dieux lui commandent de faire pour réparer l'acte le plus odieux de tous, celui qui le prive même de retourner auprès de Mégare et de retourner dans sa cité. Car un meurtrier n'a plus de place dans la cité. L'oracle est grave, extrêmement grave. Il lui exprime non pas le dégoût des dieux, mais leur profonde tristesse face à un acte innommable. Et pourtant, il existe bien une solution, la purification, car tout meurtrier peut être purifié. Mais qui doit-il aller voir pour obtenir cette purification et que doit-il faire? L'oracle lui dit qu'il doit se mettre au service de la personne qui le purifiera. Et que cette personne, c'est tout simplement son cousin, Eurysthée, le roi d'Argos, qui n'est pas connu pour sa bienveillance, mais plutôt pour sa tyrannie et sa couardise. Héraclès n'a pas le choix. Il prend donc la route d'Argos et arrive à la cour d'Eurysthée. Oh, il n'a pas besoin de relater ce qui vient de se passer. Eurysthée est bien évidemment au courant et il est plutôt satisfait. Il va décider d'accepter de purifier Héraclès de ce péché innommable, mais à la condition qu'Hercule remplisse pour lui 12 travaux. 12 travaux de diverses natures, il devra les faire dans un délai imparti pour chacun et pour certains sans céder même de sa force. Héraclès n'a pas le choix. Il va donc accepté ses 12 travaux. Eurysthée est convaincu qu'il ne pourra les réussir, parce que ces 12 travaux ne sont pas à la portée des mortels. Ils sont monstrueux, irréalisables, même les dieux, au sommet du mont Olympe, en frissonnent d'avance. Voici quelques-uns de ces 12 travaux. Il va devoir aller tuer l'hydre de Lerne, ce serpent aux multiples têtes qu'Héraclès va commencer par couper. Mais plus il coupe de têtes de l'hydre, plus celle-ci repousse. Et c'est alors que Apollon lui permet de trouver la solution. Il suffit qu'il brûle la tête tout juste coupée pour l'empêcher de renaître. Et il finit par triompher de l'hydre. Il tue également le lion de Némée, cette bête monstrueuse qui ressemble certes à un lion, mais dont la peau n'est pas celle d'un lion que nous connaissons, mais qui ressemble plus à une énorme cuirasse qui résiste à toutes les flèches qu'Hercule a beau tirer. Et lorsqu'il voit qu'aucune de ses armes, ni même sa masse, ne vient à bout du monstre, il se décide à le battre à main nue. Et il parvient à lui broyer la nuque. Et de cette cuirasse, qui semble être résistante à toute arme, il s'en fait une armure. Il la tanne avec précision. Et de la tête du lion, il s'en fait aussi un casque. Et c'est ainsi paré qu'il revient à la cour d'Eurysthée. Il va devoir également chasser la biche au pied des reins, tuer les oiseaux du lac Stymphale. Mais là aussi, ces oiseaux sont des monstres, des oiseaux de fer qui, de leur bec en fer et en airain, dévorent les mortels qui ont le malheur de venir s'abreuver sur leur lac. Athéna va lui apporter la solution. Elle va lui donner des timbales que Héraclès n'aura qu'à secouer pour le distraire, et ainsi il pourra abattre les volatiles de ses flèches, ces mêmes flèches qu'il aura trempées dans le sang de l'hydre. Ce sang empoisonné qui tue instantanément tous ceux qui y sont confrontés. Il va aussi devoir nettoyer les écuries d'Augias. Alors là, c'est une tâche presque ingrate, mais pourtant irréalisable. Augias est un roi extrêmement paresseux qui a un des troupeaux les plus beaux du monde. Un troupeau de taureaux blancs, et qui pourtant vit dans une étable où il ne semble pas y avoir été fait de nettoyage depuis plus de 30 ans. Héraclès ne peut utiliser sa force. Et pourtant, il va réussir à détourner le cours d'une rivière qui va venir passer directement dans l'écurie et charrier toutes les immondices jusqu'à la mer. Il va ramasser les pommes d'or du jardin des Hespérides. Il va aussi aller combattre les Amazones et leur reine Hippolyte et lui prendre sa ceinture. Mais il va et surtout devoir aller aux enfers pour aller y chercher Cerbère. Cerbère, ce chien tricéphale qui garde les enfers et qui dévore tous ceux qui n'ont rien à y faire. Alors là aussi, il va pouvoir compter sur l'aide de ses divinités protectrices, comme Athéna et Apollon, qui vont lui donner le moyen à la fois de passer devant Charon, mais de pouvoir convaincre Cerbère. Mais il doit surtout demander la permission à Hadès et Perséphone. Les rois et reines des enfers acceptent. Et voilà que notre cher Héraclès remonte des enfers avec Cerbère qu'il a réussi à dompter sans utiliser sa force, car c'était la condition sine qua non pour qu'Hadès accepte. Il fallait qu'il n'utilise en aucun cas ni sa force ni sa massue pour dompter la bête. Eurysthée est effondré. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter de le purifier. Hercule a rempli ses 12 travaux. Et pourtant, est-ce qu'une vie de bonheur s'annoncerait après ces 12 travaux? Elle serait méritée tant Héraclès a souffert. Je peux vous dire qu'il n'en sera rien. Une fois ses 12 travaux accomplis et sa purification reçue, Hercule tourne cette page malheureuse. Et le voilà qui convole à nouveau. Il convole avec Déjanire, une beauté splendide. Il vient de l'épouser et ils sont en voyage. Il se trouve qu'ils vont devoir traverser un fleuve où le courant est très important. Hercule est un excellent nageur, mais Déjanire, elle, ne sait pas nager. Or, il n'y a pas 36 solutions. Héraclès sait qu'il ne pourra pas atteindre la berge en portant Déjanire. Il est certes fort, mais face au courant du fleuve, il ne pourra pas le faire. Or, un centaure vient leur proposer son aide. Ce centaure se nomme Nessus. Nessus propose au jeune couple de faire traverser Déjanire et que Héraclès puisse, lui, après avoir contourné le fleuve, les rejoindre un peu plus loin. Hercule ne voit pas les mauvaises intentions du centaure. Lui, il accepte tout simplement le marché et voilà que Nessus charge Déjanire sur son dos et traverse le fleuve. Héraclès les voit s'éloigner. Il commence donc à se mettre en chemin, mais très vite, il entend les cris de Déjanire, des cris de détresse. Hercule se précipite et voilà qu'il découvre Déjanire en train de se débattre sous Nessus qui essaie par tous les moyens de violer la jeune femme. La colère d'Hercule est à l'égal de sa surprise. Il attrape son arc, dégaine une flèche et vise le centaure. Et la flèche, qui, comme vous le savez, a été trempée dans le sang vicié de l'hydre de Lerne, fait mouche. Nessus est frappé en plein cœur et il s'écroule. Il a juste le temps de dire quelques mots à Déjanire. Il semble se repentir. Il lui dit que, puisqu'il a été puni de cette mauvaise conduite, il lui propose son sang pour donner au couple qu'elle forme avec Héraclès une nouvelle vigueur. « Trempe mon sang dans cette tunique, lui dit-il, et offre-la à ton mari. Lorsqu'il la portera, son ardeur pour toi n'en sera que renforcée. » Déjanire ne voit pas les mauvaises intentions de Nessus et de surcroît, elle ne pense pas que le sang du centaure ait pu être vicié par le poison des flèches d'Hercule. Elle accepte le présent de Nessus, pensant que celui-ci s'est vraiment repenti de sa conduite. Et lorsqu'ils regagnent leur logis, elle offre à son mari cette très belle pièce d'étoffe. Hercule la revêt aussitôt. Dans l'instant, il ne se passe rien. Et puis Hercule ressent comme un picotement qui devient très vite une démangeaison. C'est insoutenable. Hercule voudrait retirer la pièce d'étoffe, mais il n'y arrive pas. Il tire dessus le plus possible et quand il parvient, lui semble-t-il, à la décoller, l'étoffe ne vient pas toute seule. Sa peau part avec. Oh, il n'a pas trop de temps à réfléchir pour se rendre compte que Déjanire a été trompé par Nessus. Et le voilà ainsi, lui, Héraclès, lui, le plus grand de tous les héros, surpassant même le grand Persée par sa force, en train d'être terrassé par une tunique empoisonnée. Et Zeus, de là-haut, souffre lui aussi, mais il ne peut intervenir, il ne peut rien faire. Le destin avait décidé que la vie de son fils s'arrêterait ici. Et Zeus ne peut contrecarrer cette force-là. Alors il attend. Il attend que son fils rende son dernier souffle, puis d'un coup de sa foudre, frappe le corps d'Héracule. Il le frappe et l'enveloppe dans un nuage blanc qui le transporte jusqu'aux portes de l'Olympe où Zeus accueille enfin ce fils. De mortel, de fils de Zeus, de demi-dieu, le voici enfin parmi les siens. Il est devenu un dieu. Et Héra n'a d'autre choix que de reconnaître que Hercule mérite enfin le repos. Hercule a laissé de nombreuses traces dans notre culture populaire. On y fait référence régulièrement et les hommes de pouvoir ne s'y sont pas trompés, notamment certains empereurs romains, parmi lesquels l'empereur Commode, le fils de Marc Aurèle, qui lui avait décidé de reprendre à son compte les attributs mêmes d'Hercule, à savoir sa massue, mais aussi la cuirasse et cette peau de lion qu'il portait à l'accoutumée. Cette allégorie que Commode a voulu rendre plus réelle n'était là que pour asseoir sa force et le rendre légitime autrement que par des batailles auprès du peuple romain. Légitime d'une autre façon et rappeler d'une certaine manière qui est le patron. Les exploits d'Hercule ont été chantés, ont été sculptés. Rien n'est oublié. Des milliers d'années après que, pour la première fois, on ait compté ces légendes, cette mémoire est toujours aussi vivace.